jusqu'à 9h. Good Morning Business, Stéphane Soumier.
Parlons-en pour solder cette semaine exceptionnelle avec Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Notre économiste, mais plus seulement, il nous échappe. Alexandre Sobo, directeur général, délégué du groupe Olot. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane. Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour nous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Jean-Marc, bravo. Économiste officiel de la République. Vous avez reçu hier le prix Turgot. Bah, on le dit un mot parce que... On se l'attribue un peu, vous savez comment on est fait, Jean-Marc.
Oui, oui, voilà, hein, absolument. On... Oui, j'ai reçu hier le prix Turgot pour Ricardo Revient, il s'en restait keynésien.
Ouais.
Et le ministre du budget, qui me l'a remis, Monsieur Cazeneuve, a tenu un discours à qui je lui ai dit que j'adhérais beaucoup. Parfaitement à ce discours, puisqu'il a rappelé la nécessité d'équilibrer les comptes publics et il a rappelé la nécessité de se couler dans un raisonnement sur la base du cycle économique tel que l'avait défini le nouveau traité européen.
Le ministre qui vous a remis ce prix, Jean-Marc Daniel, fait radicalement l'inverse de ce que vous écrivez dans le bouquin, quand même, globalement.
Il dit la même chose que ce qu'il y a dans le bouquin.
Qu'est-ce qu'il fait
Alors, ce qu'il fait, pour l'instant, il est en train de recevoir ses homologues pour essayer de faire des économies budgétaires. Et le véritable enjeu, c'est qu'il les fasse, effectivement.
Voilà.
C'est-à-dire que, pour l'instant, on en est au stade du discours, mais on peut dire un peu ça aussi du président de la République.
Oui,
on
en est au stade du discours. Évidemment, mais quand je disais le ministre,
oui,
c'est au président de la République.
Oui. En fait, on est au stade du discours et on est au stade du commentaire du discours sur le discours, du discours sur le discours. Enfin, il y a une espèce d'accumulation d'intervention. Mais l'acte fondamental qui est la baisse des dépenses publiques est annoncé mais toujours pas concrétisé.
Et c'est l'acte fondamental aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'alpha et l'oméga d'une relance.
Oui, oui, pour moi c'est l'acte fondamental, c'est-à-dire que les 60 milliards d'économies qu'a annoncé François Hollande le 13 novembre dans sa conférence de presse, maintenant il faut les voir, les montrer, expliquer comment on va remettre en cause un certain nombre de rentes garanties par l'État, comment on va repenser la mission de l'État.
En groupant les achats de l'État, vous a dit le président de la République hier.
Oui, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, il y a une ambition qui est énorme, 60 milliards d'euros, c'est quand même 3% du PIB, et en regard, il y a des petites mesures dont on ne peut pas considérer qu'elles
doivent... On n'est pas du tout à la hauteur des enjeux.
On n'est pas à la hauteur des enjeux, on n'est même pas dans la perception qu'ont les dirigeants de ces enjeux. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit, je pense, qui consiste à annoncer, mais à reculer devant le saut qu'il va falloir faire.
C'est quoi? Ils ont l'impression que ça va se faire tout seul?
Alors, je pense qu'il y a deux choses dans le comportement de nos dirigeants. Il y a effectivement un peu cette idée que la croissance mondiale va repartir, que cette logique cyclique, qu'ils ont assez bien intégrée dans leur façon de penser et en partie d'agir, cette logique cyclique va apporter de la croissance venue des États-Unis. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'armée française en 1917. On attend les Américains pour avoir la victoire finale. Et puis, le deuxième élément qui est assez frappant, c'est que le taux d'utilisation des capacités de production des entreprises est pratiquement maintenant revenu à un niveau qui est un niveau à peu près normal. Donc les entreprises vont être obligées d'investir. C'est-à-dire que ou bien on prend vraiment du retard, ou bien les entreprises, par la nécessité de l'obsolescence du capital, de la dynamique de leur vie, elles vont être obligées d'investir.
Ça va se faire.
Sauf que les entreprises n'investissent que quand elles ont un taux de marge assez significatif, redressé. Et donc ça ne s'est pas redressé.
Alexandre Sobo, la question, elle vous est directement posée finalement. Le patron de Lot, est-ce qu'il est aujourd'hui dans une situation où il se dit, tiens, je vais pouvoir recommencer à investir?
Bah, nous, personnellement, on avait beaucoup investi avant la crise, donc on n'est pas du tout revenu à un niveau d'utilisation de nos capacités de production qui justifie des investissements significatifs, mais je pense qu'on est dans une situation un petit peu particulière. En revanche, quand je parle à mes clients aujourd'hui dans le monde, et en particulier en France, on voit des situations très contrastées. Et aujourd'hui, la vraie difficulté de la France, c'est que les gens n'y croient pas. Donc ils sont attentistes et ils attendent autre chose que le discours en creux. Parce que quand on écoute bien ce qu'a dit le président hier, il a fait deux ou trois ouvertures, il a évoqué deux ou trois sujets assez lourds de conséquences, dont certains,
exemple,
à mon avis,
exemple,
vont dans le bon
sens. Allez-y, exemple.
Bah, il a évoqué une remise à plat de la taxation d'un certain nombre d'opérations sur le capital. Il a évoqué une réforme des retraites assez
remise à plat. Et alors, Frédéric Bedin, patron du Public Système, ancien patron de Croissance Plus, qui s'occupe beaucoup, notamment avec Jean-David Chamboredon, hein, le mouvement des pigeons, etc., des contacts avec Bercy aujourd'hui, nous disait qu'il sentent qu'on est effectivement vers une remise à plat de l'ensemble des dispositifs qui peuvent aujourd'hui empêcher les mouvements de capitaux au cœur des entreprises du fait de ce fameux article 6 de la loi de finances.
Mais encore une fois, on est dans une crise profonde dont, avec une grande naïveté, le président nous annonce en début d'émission qu'il n'avait pas conscience ou qu'elle était si difficile ou qu'elle allait durer si longtemps. Mais il vit dans quel monde? Il a fait quoi? Il a fait une campagne en disant que c'était tout de la faute du président d'avant. Alors que le discours lui permette d'être élu et ce soit un discours bien rodé ne pose pas de problème, mais quand on l'a entendu hier soir, on a l'impression qu'en fait, il y croyait. Et il suffit de rencontrer des gens pour se rendre compte que c'est pas le président de la République précédent qui responsable de la situation économique de la France. On est dans une situation critique. Je pense quand même que le gouvernement en place porte une lourde responsabilité dans l'attentisme et l'inquiétude d'un certain nombre de décideurs économiques depuis un an.
Ouais.
Et c'est autre chose qu'un discours en creux qu'il faut pour leur redonner confiance.
Ils vous disent vous avez tous les outils là. Ils vous disent je vous ai mis tous les outils sur la table. Est-ce que vous avez tous les outils ?
Encore une fois, on en a un peu plus qu'avant. Mais dans la situation dans laquelle on est, dans laquelle il faut reconstruire la maison, on nous a donné un tournevis et une boîte de clous. Ça ne va pas suffire. Il nous manque beaucoup de choses. Encore une fois, on a fait là de l'accord sur le marché du travail, oui. L'alpha et l'oméga. C'est un accord défensif pour aider les grands groupes à mieux gérer des situations difficiles. C'est très bien, mais ça ne va pas créer de l'emploi. Ça va éviter d'en détruire dans certaines circonstances. Ça va permettre de mieux gérer des situations difficiles.
Pourquoi grands groupes ? Vous n'êtes pas preneur, vous, de davantage de sécurisation des plans de sauvegarde de l'emploi, si vous avez à en faire
Mais qui fait des plans de sauvegarde de l'emploi, Stéphane ? On parle de combien ? Je veux dire, c'est 3% des licenciements en France sont des licenciements économiques. 95% des entreprises françaises n'ont jamais fait et ne feront jamais un plan de sauvegarde pour l'emploi.
Accord de maintien dans l'emploi. Et ça, pour le coup, on est au cœur de votre activité là, Alexandre. C'est-à-dire au cœur d'une activité très cyclique. Accord de maintien dans l'emploi et essayer de moduler sur les salaires. Vous ne pouviez pas le faire, ça, avant. Essayer de moduler sur les salaires le temps que le cycle reparte.
Oui, Stéphane, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on a donné aux entreprises qui passent des moments difficiles, des outils supplémentaires pour gérer avec l'accord des salariés, parce que c'est quand même avec l'accord, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit avec l'accord des représentants du personnel, des outils supplémentaires pour gérer plus intelligemment des périodes difficiles. Et je l'ai dit, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui va permettre de refaire de la France un lieu attractif dans lequel les gens vont avoir envie d'investir et de créer de l'emploi durable et longtemps.
On n'est pas à la hauteur des enjeux.
On n'est juste pas à la hauteur des enjeux. C'est un très bon accord qui fait bouger un certain nombre de lignes. C'est un accord défensif. Il manque tout le volet offensif, consiste à dire au chef d'entreprise qui, in fine, est le décideur de ce qui se passe avec ses équipes, mais in fine, il y a quelqu'un qui assume la décision, et en la majorité des cas, c'est lui, qui peut y aller, qui peut prendre des risques. Ça n'a pas été fait.
Stabilité fiscale, vous y croyez ?
Stabilité fiscale.
Il vous promet la stabilité fiscale. Il essaye de promettre la stabilité fiscale.
Là. Stabilité fiscale.
Avec
quand
une
on
taxe supplémentaire sur au-dessus d'un million d'euros, mais non, ça ne vous concerne pas, ça, Alexandre.
Je vous rassure, je vous inquiète, mais chez nous, personne ne gagne plus d'un million d'euros et ce n'est pas prêt d'arriver.
Sur BFM, ça nous inquiète plus que ça nous rassure. C'est tout ce qu'on vous souhaite.
Mais le fond du sujet, c'est bien ça. C'est d'un côté, on a beaucoup augmenté les impôts, puis ensuite on a fait le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. On nous dit que ça va stabiliser. De l'autre côté, pour équilibrer les comptes, il faut faire, Jean-Marc le rappelait, 60 milliards d'économies. Et quand on demande hier, c'était saisissant, au président, donnez-moi une mesure significative pour faire des économies, on sent qu'il hésite et il nous dit centralisation des achats. Ouais. Le serpent de mer depuis 15 ans. Ouais. Quand je dis 15 ans, je suis gentil.
Ouais.
Où à chaque fois, il y a une politique de modernisation. On dit oui, on achète beaucoup si on leverageait tout ça. Mais je dis, on n'a pas réformé l'État pour le faire. Ça ne marche pas tant qu'on n'a pas posé un certain nombre de conditions. Voilà. Et puis après, là aussi, nous, on est fournisseurs de façon très marginale. On est fournisseurs de l'État. Il faut aussi bien mesurer ce que ça veut dire mieux acheter. C'est-à-dire qu'ils demandent aux entreprises qui les servent un certain nombre de services et de temps en temps, on a l'impression qu'ils sont juste plus disposés à payer le service qu'ils nous demandent.
Oui, c'est ça. Et non, ça reste le plus mauvais payeur de France aujourd'hui en plus, hein, à l'arrivée, Alexandre. En plus.
En tout cas, ce n'est pas le meilleur.
Ce n'est pas le meilleur,
mais
voilà.
Juste une anecdote, on doit et on a une mission pour une partie de l'État français sur des matériels qu'ils ont achetés, de gérer des stocks du vieillissement de pièces. Donc il faut entretenir des fournisseurs pendant des durées de vie de matériel militaire. Ça dure 15, 20, 25, 30 ans. C'est un travail, c'est pas complètement élémentaire.
Ouais.
Il faut être capable de leur garantir la disponibilité, la capacité d'approvisionner ça. Et ils considèrent qu'avec une grosse marge de 5% sur nos prix d'achat, on est capable de rendre
ça.
Ce service. Mais c'est juste pas possible. Donc à un moment donné, il faut bien voir ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, quand on fait des économies, ça veut dire qu'on va acheter des scooters chinois et pas des scooters français parce qu'ils sont 15% moins chers.
Jean-Marc, un mot, au travers du déblocage de la participation, enfin d'un petit bout de participation, il semble vouloir dire aussi, on a là un réservoir d'épargne qui reste important. qui augmente d'ailleurs, c'est le paradoxe, hein, depuis le début de la crise. L'épargne non financière des Français augmente, il y a évidemment la hausse des prix de l'immobilier, mais il y a aussi l'épargne non financière. Est-ce qu'un peu plus de stabilité fiscale et de confiance pourrait permettre de réinjecter un peu de cette épargne dans le système?
Je crois qu'effectivement, il y a un problème de pouvoir d'achat. On le voit dans les résultats de l'INSEE. Une des façons de compenser ces baisses de pouvoir d'achat, c'est de faire baisser le taux d'épargne. Et donc, on voit cette pression qui s'organise sur l'épargne institutionnalisée. Mais la bonne réponse dans ces cas-là, c'est les mécanismes que les économistes appellent ricardiens. C'est-à-dire les gens se mettent à désépargner, non pas parce qu'on leur met l'épée dans les reins en leur disant « désépargnez, sinon on vous pique votre épargne » ou des choses comme ça. Ils se mettent à désépargner parce qu'ils ont retrouvé la confiance. Exactement. Et donc, on en revient à ce qu'on disait. Je crois que fondamentalement, il fait une politique, effectivement, pour l'emploi, un peu à courte vue, alors qu'il faudrait faire une politique pour la croissance, pour l'investissement. Et donc, dans toutes les réformes fiscales, ce vers quoi il faudrait axer maintenant l'effort, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés, comme le font la plupart des pays européens, et vraiment une action vers les entreprises, c'est-à-dire pas vers l'épargne des ménages et tout ça, vers les entreprises, parce que c'est là que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain.
Hein. Un mot, Alexandre. Un mot. On vous retrouve à 9h10, Alexandre.
Juste un mot pour dire, dans les choses qui m'ont surpris hier, l'INSEE a annoncé que le taux de marge des entreprises en 2012 est tombé à son plus bas depuis 1985. Le président n'en a pas dit un mot.
Il est 8h33.